Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique en ce mardi matin est Franck Nicolas. Il est délégué régional de Rassemblement National Bretagne. Il est également délégué national aux fédérations du RNJ, donc le Rassemblement National Jeune. Et il est avec nous en direct ce matin. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Et Axel Guillaume, que vous avez entendu. Bonjour Axel.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Qui va également conduire l'interview avec moi. À 8h17, un sondage m'a, j'allais dire, un petit peu allé sur la perception du Rassemblement National. Les Français font de moins en moins confiance aux institutions, nous dit ce sondage, mais de plus en plus au Rassemblement National. Alors, c'est une étude sur les fractures françaises, étude signée Ipsos, BVA, Le Monde, Fondation Jean Jaurès, le CVPOF et l'Institut Montaigne, autour de la défiance politique, qui continue quand même de grimper en cette année 2025, alors que l'image du RN s'améliore à l'approche de la présidentielle. Quelques chiffres, Franck Nicolas, 47% des Français jugent le RN capable de gouverner, c'est plus 3 points. 42% estiment qu'il est proche de leurs préoccupations et 38% déclarent vouloir vivre dans la société que le RN propose. C'est 3 points de plus par rapport au précédent sondage. Et à noter que moins d'un Français sur deux considère désormais le parti dangereux pour la démocratie. 49%, donc moins un point, quand 64% jugent au contraire la France insoumise dangereuse, et 40%, c'est assez étonnant, note que Renaissance est également un parti potentiellement dangereux. Alors, qu'est-ce que ça appelle comme, j'allais dire, commentaire, ce sondage ?
Alors de mon côté, je ne suis pas choqué du tout. Mais alors pas du tout. On savait déjà que le groupe RN à l'Assemblée nationale était considéré comme celui qui faisait le meilleur travail, celui qui permettait réellement, de par ses amendements, ses propositions de loi qui étaient déposées, de pouvoir améliorer la vie des Français. Donc moi, je ne suis pas particulièrement choqué. Pour aller sur les marchés régulièrement, j'étais il n'y a pas si longtemps, j'ai fait Brest, j'ai été à Audierne il n'y a pas très longtemps. Je peux vous dire que les Français n'attendent qu'une chose, c'est qu'on puisse retourner aux urnes pour justement que ces sondages-là se reflètent dans la réalité aussi des institutions, parce qu'aujourd'hui, le RN est de mieux en mieux vu. Je dirais que Renaissance est en train totalement de vaciller, de faire naufrage, et pourtant c'est encore Renaissance, et également des partis comme le Parti Socialiste qui sont aux manettes. On aura l'occasion, je pense, d'en parler avec le dernier épisode de la censure, le budget qui arrive à l'Assemblée nationale, là, qui est en commission des finances actuellement. Mais le RN aujourd'hui apparaît comme la seule opposition qui est appréciée des Français. Il y a à peu près la moitié qui nous sentent capables de gouverner. C'est-à-dire, je crois que voilà, le sondage Ipsos parlait de 47% qui nous pensaient capables de gouverner. C'est 8 points de plus que lors de la présidentielle 2022. Quand on compare à Renaissance qui perd 21 points, qui est à 30%, je pense que c'est assez symptomatique de ce qui s'est passé pendant les dernières années.
Donc vous y voyez-vous une faillite du système ou bien une opportunité politique pour le Rassemblement National ?
Les deux tout simplement. C'est une faillite du système, évidemment, parce que les Français ont envie d'autre chose. Les Français souhaitent être représentés et n'ont plus forcément envie de voir ces magouilles politiciennes perpétuelles. Et oui, ça peut être une opportunité. Évidemment, nous, tout ce qu'on veut, c'est le bien-être des Français. On voudrait redonner la parole au peuple par différents moyens. Donc, pour nous, ça pourrait être une éventualité, une opportunité, s'il devait y avoir un retour aux urnes. Aujourd'hui, le prochain retour aux urnes, il est pour les élections municipales. Et évidemment, à ce moment-là, on appellera les Français à se mobiliser à fond derrière nos candidats, notamment en Bretagne, évidemment.
Alors, on va en parler des municipales dans un instant. La politique générale, aujourd'hui, on a quand même un cas de figure assez surprenant. On a eu la démission de Sébastien Lecornu, une motion de censure, peut-être, si le budget n'était pas voté, la possibilité d'un vote par ordonnance du budget qui sans doute déboucherait là encore sur une motion de censure et peut-être une dissolution. Il faut un peu de calme dans la vie politique française aujourd'hui.
Je ne pense pas. Enfin, c'est-à-dire que nous ne sommes pas les artisans du chaos comme ont pu l'être les députés, par exemple, de la France Insoumise, qui à plusieurs reprises, et là j'ai en tête évidemment un exemple sur lequel on reviendra certainement, je pense, en politique générale, je pense à la réforme des retraites. S'il y a bien une formation politique qui bordélise la vie politique en général, c'est bien la France Insoumise. Bon, au moins on a pu leur reconnaître une cohérence ces derniers temps, c'est qu'ils ont déposé une motion de censure. Nous aussi, nous en avons déposé une. Malheureusement, la cohérence n'est pas allée jusqu'au bout, parce que nous avons voté les deux motions de censure. LFI a décidé de ne voter que la sienne. Donc, si on doit parler de stabilité, il y aurait une stabilité suite à une future élection. Aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de stabilité parce que nous sommes face à plusieurs blocs qui ne peuvent pas aboutir à une quelconque solution. C'est-à-dire que parmi ces trois blocs-là, il n'y a que le Rassemblement National qui apparaît être une force politique cohérente, qui va au bout de ses idées et qui, dans ses votes, représente exactement ce qu'il y avait dans le programme du RN. À côté de ça, on a des macronistes ou des insoumis, des socialistes, des républicains aussi, on aura l'occasion d'en parler, qui passent leur temps à se désavouer eux-mêmes, à revenir sur leurs propres propos et finalement à n'avoir en tête que leur propre poste, la survie de leur propre poste et non pas ce que les Français, eux, attendent.
Alors on dit que la France est de plus en plus ingouvernable, qu'on arrive un petit peu au bout de la Ve République, on pourra en dire un mot, mais il y a aussi des voix qui s'élèvent pour l'appel à une union des droites. On a entendu Marion Maréchal, entre autres, s'exprimer ces temps derniers. Du côté également d'Éric Ciotti, qui dit voilà, il faut que LR rejoigne une forme de coalition avec le RN. Est-ce que c'est ça la solution demain ?
Alors l'union des droites, on l'a déjà fait, on l'avait fait au moment des législatives 2024 avec Éric Ciotti, qui a fait preuve de beaucoup de courage en choisissant de faire une partie de chemin avec le Rassemblement National, non pas en reniant complètement ses convictions, parce qu'il faut quand même le dire, il y a une différence entre les programmes de l'UDR et du RN, mais nous nous accordons sur une grosse partie des priorités, que ce soit par exemple la défense des Français face à l'immigration massive et incontrôlée, que ce soit la défense du pouvoir d'achat des Français ou encore leur défense face à l'insécurité grandissante dans le pays. Donc l'union des droites est possible avec des personnes qui ne renient pas leurs convictions. C'est ce qui a été le cas d'Éric Ciotti, qui a eu ce courage de venir vers nous, qui est, à mon avis, un courage qu'on aimerait voir chez d'autres dirigeants politiques. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué de faire l'union avec des demi-macronistes. Et encore, je dis demi-macronistes, mais finalement, Laurent Wauquiez, le président des Républicains aujourd'hui, a décidé non plus de se donner, enfin de se vendre au macronisme, mais de se dissoudre dans le socialisme. Il n'y a même plus de contrepoids, ils n'ont même plus quoi que ce soit à demander, ils donnent leur voix au macronisme ou alors ils ne donnent pas la voix à l'opposition. Donc c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui avec un Bruno Retailleau qui n'a vraiment pas envie de faire autre chose que d'être au gouvernement.
On va parler aussi, vous avez évoqué brièvement la sécurité, on va en parler au long de cette interview, mais si un programme sur lequel vous devez tous vous accorder, c'est le budget. Depuis hier matin, la commission des finances examine la partie recettes. Près de 1500 amendements ont été déposés et sont à l'étude pendant ces 3 jours avec un vote solennel prévu le 4 novembre. Le gouvernement vise un déficit public ramené de 5,4% à 4,7% du PIB grâce à un effort global d'environ 30 milliards d'euros. Il évoque aussi la possibilité d'assouplir cet effectif à un niveau sous 5% pour permettre, je cite, des compromis. Vous, au Rassemblement National, vous parlez de carnage budgétaire, mais concrètement, que feriez-vous, vous, pour redresser les comptes sans creuser donc davantage la dette?
Carnage budgétaire ou boucherie fiscale même d'ailleurs. Au Rassemblement National, on a proposé déjà il y a un peu plus d'un an et demi un contre-budget qui était excédentaire de 13 milliards d'euros et qui avait une particularité, c'était qu'il ne s'attaquait pas au portefeuille des ménages les plus pauvres, les plus modestes, que ce soit les classes populaires ou les classes moyennes. Donc ça, c'est une différence par rapport aux macronistes et aux LR qui, eux, et d'ailleurs les socialistes qui se mettent maintenant dans une espèce d'accord de gouvernement, qui décident eux de faire peser les errances du Mozart de la finance qui pour le coup a vu son piano se dérégler, je pense, puisque il faudra quand même le rappeler, 1100 milliards de dettes en très peu de temps. Aujourd'hui c'est un déficit public qui est extraordinaire, une dépense publique française qui correspond à 58% du PIB, c'est 10 points de plus que la moyenne en zone euro. Donc au Rassemblement National, nous, on n'ira pas évidemment voter un budget qui alourdit de 19 milliards d'impôts les Français. Il faut quand même rappeler, sur ces 19 milliards d'impôts, il y a 10 milliards d'impôts sur le revenu qui vont amener à ce que 200 000 foyers entrent dans le barème de l'impôt sur le revenu à cause du gel de ce barème. À côté de ça, et je reviendrai justement sur ce qu'on va proposer, on a la poursuite de la gabegie des dépenses publiques, parce que 28 milliards de dépenses en plus, il n'y a aucun effort qui est fait, justement ça fait partie de nos propositions sur le train de vie de l'administration ou des agences indépendantes, il n'y a aucun effort qui est fait sur l'immigration, encore moins sur l'AME d'ailleurs, alors que Bruno Retailleau était le premier à dire que c'était presque une ligne rouge pour lui. Il y a des mesures d'indécence sociale, on va y revenir. Du côté du Rassemblement National, en tout cas, On propose évidemment de refuser toutes les augmentations d'impôts et de taxes. On voudrait faire contribuer surtout ceux qui le peuvent, par exemple via l'impôt sur la fortune financière, davantage que sur la fortune immobilière qui, elle, taxe l'enracinement. Nous, notre but, c'est davantage de faire contribuer les personnes qui en ont les moyens, en taxant les superdividendes, évidemment, et les rachats d'actions également. Nous souhaitons également faire la chasse au gaspillage d'argent public sur l'immigration ou sur d'autres. Par exemple, sur l'immigration, on pourrait parler de l'instauration de la priorité nationale sur les aides sociales. Ça rapportera à peu près 18 milliards, ou de la transformation de l'aide médicale d'État, qui est un symbole davantage qu'une très grande économie, parce que c'est à peu près 1 milliard d'euros par an. Également diviser par deux la contribution nette de la France au budget de l'Union européenne, c'est 5 milliards, un petit peu plus aujourd'hui, ou encore mener les efforts sur les trains de vie de l'État, donc c'est 4 milliards d'euros d'économies sur des agences de l'État comme le Césaire ou le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle, par exemple.
Il y a un chiffre sur lequel je voudrais qu'on revienne, parce qu'on entend ici et là, par exemple, Jordan Bardella parle de faire 100 milliards d'économies, par exemple, en 5 ans, si le Rassemblement National passe au pouvoir. On entend des chiffres un peu différents, 40, 50, selon les diverses personnalités à l'extrême droite. Mais vous les trouvez où, concrètement, ces économies? Dans quel poste? Dans les retraites? Chez les fonctionnaires? Les aides sociales, vous les trouvez où, concrètement, ces 100 milliards?
La première chose qu'on demandait au moment des législatives 2024, c'était un audit des comptes publics. On demandait cet audit qui va plus loin que les jaunes budgétaires ou les bleus budgétaires qui sont proposés par Bercy tous les ans. On le demande puisqu'on remarque que les agences, par exemple, indépendantes de l'État, ça coûte plusieurs dizaines de milliards d'euros par an pour des résultats que je trouve assez faibles. Ce sont ce genre d'agences qui vont pondre des rapports disant aux Français qu'il ne faut pas se laver plus d'une fois par jour, par exemple, ou qu'il ne faut pas faire de machine à laver à n'importe quelle heure de la journée. Donc c'est peut-être sur ce genre de postes de dépenses que nous aurions des économies à faire. Il y en aurait évidemment d'autres, et ça, je pense que les Français en ont tout à fait conscience. Nous avons un État aujourd'hui qui est beaucoup trop dépensier, et donc les chiffres peuvent varier, parce que les chiffres aujourd'hui sont à peine précis dans les bleus et les jaunes. Donc les bleus et les jaunes budgétaires, pardon. C'est les documents qui permettent d'identifier les postes de dépenses de l'État au moment où on étudie le projet de loi de finances. Je parle pour les non-initiés.
Alors, on parle de réduction. Alors, on a aussi beaucoup entendu parler, par exemple, de l'audiovisuel public. Alors, c'est quelque chose qui nous interpelle, nous, ici, dans les médias. L'audiovisuel public, est-ce qu'il coûte trop cher? Est-ce qu'il faut le privatiser? Puis, il y a aussi les radios associatives qui vont voir leur budget amputé. Là aussi, c'est plutôt une bonne initiative où il faut y aller prudemment.
Concernant les radios associatives, il me semblait que récemment, il y a eu un appel à lutter contre le Rassemblement National effectué par les radios associatives. Donc je sais que votre radio, pour le coup, n'en fait pas partie, de cet appel. Je vous en remercie. Au moins, vous restez un média d'information et non pas un média d'opinion. Oui, la privation de l'audiovisuel public est une mesure qui est proposée par le Rassemblement National, notamment visant, je dirais, les radios nationales. C'est-à-dire qu'il est effectivement difficile pour les Français d'imaginer, de voir sur leur feuille d'impôt, donc qu'ils vont payer plusieurs milliers d'impôts. Pour le coup, je parle d'ailleurs en connaissance de cause, parce que j'ai récemment payé mes derniers prélèvements d'impôts, ça fait mal. Mais se dire qu'on paye donc tous ces impôts pour une télévision ou une radio qui va insulter 30% de l'électorat français, 13 millions de Français, en leur expliquant que le choix du RN, c'est le choix du chaos, en leur expliquant que le RN a tous les défauts du monde, pour ne pas dire qu'ils sont à demi-mot de grands fascistes. Je pense qu'il y a quand même une nécessité de revoir les subventions accordées à certaines radios qui ne respectent pas un quelconque devoir de neutralité. Ça, ce sera à voir de tous les côtés, je pense. Donc la proposition de privatisation de l'audiovisuel public, elle est notamment liée à cette envie que les Français n'ont plus envie, tout simplement, de payer pour des médias d'opinion qui leur crachent dessus à longueur de journée.
Aussi, toujours dans cette idée d'économie budgétaire, on a les collectivités territoriales. Elles souffrent aujourd'hui, elles se plaignent que l'État leur demande beaucoup, alors qu'elles sont obligées d'être à l'équilibre sur leur budget. Est-ce que là aussi, il faut repenser peut-être une certaine forme de décentralisation à terme ?
Alors, concernant les collectivités territoriales, il est vrai que la dotation globale de fonctionnement a considérablement diminué sur les dernières années. En tout cas, elle ne suit pas l'inflation. Donc, les collectivités territoriales ont souvent tendance à se considérer comme étant l'une des premières victimes des budgets successifs. Au Rassemblement national, nous défendons côté... Là, vous parlez de réorganisation des territoires. Nous défendons
oui,
notamment...
c'est un peu lié au budget, finalement, oui, parce qu'il y a une demande de plus grande autonomie, finalement.
Évidemment, déjà, au sein des conseils régionaux, nous sommes les premiers à vouloir que les budgets soient un petit peu mieux dépensés, qu'il y ait peut-être un petit peu moins de subventions effectuées à certaines associations qui défendent des causes type l'immigrationnisme à foison. Ça, pour le coup, il y a peut-être de meilleures dépenses à faire du côté des régions, peut-être des économies tout simplement à effectuer de leur côté, ou qu'ils pourraient mettre plutôt dans les lycées ou les transports. Mais il y a également du côté du RN, et c'est quelque chose qui va revenir sur la table, de toute façon à partir de 2028, ce sera la question peut-être du conseiller territorial, la question du redécoupage des régions également. Il y a eu plusieurs dépôts de propositions de loi lors de la mandature, de la 16e mandature, pour revenir par exemple, je pensais à la Nouvelle-Aquitaine qui était une grande région qui n'a fait que perdre en budget à partir du moment où elle a été fusionnée, mais pour revenir au Poitou-Charentes, au Limousin, à l'Aquitaine, le Grand Est, pour revenir à la Champagne-Ardenne, à la Lorraine, et à l'Alsace. Donc il y a des mesures d'économie à faire dessus, sur des régions en fait qui sont d'extraordinaires mastodontes qui au final ne font qu'envoyer de l'argent par exemple à l'étranger ou dans les quartiers et non même plus dans la vie des Français.
Petite question subsidiaire et je cède le micro à Axel Guillaume. La Bretagne a 5 départements, on peut imaginer que le RN passe le cap comme l'on dit?
Ce sera une question à reposer à notre tête de liste régionale. Non, il me semble que la question avait été posée déjà lors des dernières élections régionales et que la plupart d'ailleurs des candidats s'accordaient là-dessus. Je sais qu'il y a pas mal de Bretons comme de Nantais qui aimeraient la solution à 5 départements.
À 5 départements, voilà.
M'excuser, il est tôt. À 5 départements. À mon avis, il sera possible que lors des prochaines élections régionales, ce soit un sujet de grande ampleur. Et ça, pour le coup, vous pourrez poser la question aux futures têtes de liste. Je ne vais pas me prononcer dessus.
On n'y manquera pas.
Vous parliez des Français, et nombreux sont les Français qui nous écoutent ce matin en direct sur Bretagne 5. J'ai suivi certaines de vos interviews. Vous parliez notamment de priorité aux Français, priorité au pouvoir d'achat. Pourtant, on a du mal à comprendre votre politique économique. Quand on voit, par exemple, que quand la Renaissance vote contre la hausse du SMIC ou contre l'augmentation des salaires sur l'indexation, vous votez contre également. Donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est que, concrètement, est-ce que vous allez augmenter le SMIC, oui ou non? Quelles propositions vous proposez pour les Français quand on voit, par exemple, vos votes, ceux que je viens d'énumérer à l'instant?
Alors, la hausse du SMIC, ou alors j'ai un souvenir aussi, c'était l'idée du SMIC à 1500 euros, je crois. En fait, ce sont des fausses bonnes idées. Évidemment, sur le papier, ça paraît être de très bonnes idées, mais dans la réalité, en fait, ça crée des appels d'air, ça crée des augmentations, ça crée une inflation hors norme. La meilleure des choses à faire pour augmenter le pouvoir d'achat des Français, pour augmenter aussi le nombre d'emplois, la création d'emplois, ce serait de permettre l'exonération de cotisations patronales sur les augmentations de salaire. Ce serait peut-être la mesure la mieux à même de pouvoir répondre à la fois à la volonté des Français de travailler, parce que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui pour un Français de trouver du travail, parce qu'il y a très peu de création d'emplois dans notre pays. En plus de ça, c'est encore un autre sujet évidemment, mais les Français arrivent de plus en plus tard sur le marché du travail, donc ils ont aussi des demandes salariales qui sont un petit peu plus élevées, parce qu'en moyenne les Français arrivent à 27 ans sur le marché du travail, c'est 23 ans en Allemagne. Ça, c'est quelque chose sur lequel, au niveau de l'éducation nationale, il va falloir qu'il y ait une réforme de fond aussi qui soit faite.
Oui, ma question, qu'est-ce que vous proposez aux Français concrètement? Vous avez voté contre la hausse du SMIC, contre la hausse des salaires par rapport à l'inflation. Qu'est-ce que vous proposez concrètement ce matin pour les Français? Est-ce qu'il y aura une hausse du SMIC, par exemple, si le RN passe au pouvoir en 2027?
Il y aura une augmentation de la possibilité pour les employeurs de pouvoir augmenter les salaires dans un premier temps. Donc
de la possibilité, donc oui. C'est même pas sûr.
Mais c'est... exonérer de cotisations patronales les patrons qui justement décident d'augmenter les salaires de leurs salariés, c'est une incitation, c'est une mesure économique concrète, davantage que d'augmenter le SMIC. Nous ne sommes pas forcément pour l'augmentation du SMIC, j'en suis certain, mais la façon, je dirais que la mesure la plus incitative possible serait cette exonération de cotisations patronales.
On va parler des municipales parce que c'est important aussi, l'échelle locale, très locale. Alors on voit que les grandes manœuvres ont commencé, je pense que c'est le cas aussi au Rassemblement National. Alors on a pris ce matin le focus de Rennes avec cette union qui se fait à gauche entre la maire sortante de Rennes, Nathalie Appéré, et les écologistes. C'est un petit peu le même cas de figure à Nantes d'ailleurs. Du côté de la droite, eh bien la droite et le centre pourraient aussi se regrouper à Rennes. Ça nous ramène un petit peu à la question de l'union des droites. Hein. Comment le Rassemblement National va se positionner dans ces grandes métropoles ?
Alors, c'est à voir au cas par cas, évidemment, parce que dans les grandes métropoles, on pourrait aussi parler de Brest, où il y a, de notre côté, un candidat qui a été déclaré il y a quelques semaines. J'étais à cette conférence de presse, c'est Yves Pagès, qui était un ancien maire et un ancien vice-président de la métropole. À Rennes, c'est la fédération d'Ille-et-Vilaine qui va, du Rassemblement National, qui va déterminer ce qu'il est, ce qui serait la meilleure option. De notre côté, en tout cas, sachez que nous sommes prêts à aller au municipal, que ce soit en ayant une tête de liste ou non. Ce que je sais, c'est que nous avons quelqu'un en tête, évidemment, qui est une personne d'ailleurs de grande valeur. Donc, évidemment, je ne pourrais pas dire le nom parce qu'il ne s'est pas encore déclaré publiquement.
On n'aura pas le scoop. Hein.
Non, vous n'aurez pas le scoop. Je lui laisse évidemment la primauté, mais c'est quelqu'un d'une très grande valeur. Concernant les municipales de Rennes, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Le Rassemblement National ne jouera pas forcément la victoire, mais jouera par contre l'entrée, comme dans la plupart des grandes métropoles de France, au conseil municipal. Évidemment, nous aurons pour objectif de pouvoir créer un groupe dans ces conseils municipaux. C'est un objectif concret, par exemple concernant Brest ou concernant d'autres grandes villes. Au niveau national, je peux vous dire que la plupart des préfectures sont pourvues d'ailleurs et que l'option de l'union des droites, c'est quelque chose qui se fera peut-être localement, mais en tout cas, il n'y a aucune consigne nationale concernant ces élections municipales.
Avec, on l'a compris aussi, je ne trahis pas de secret en disant qu'il y a un rajeunissement, il y a une féminisation aussi des effectifs du Rassemblement National. Est-ce que c'est ça finalement l'avenir ? On a dit que le Rassemblement National avait tourné beaucoup de pages. Est-ce que c'est aussi une page qui se tourne, la féminisation, l'arrivée en politique j'allais presque dire de 109, si vous me permettez ce côté un peu trivial ?
Ça me convient que vous parliez de 109, évidemment. Alors, on parle de féminisation, pas forcément. Par contre, on est très heureux du côté du Rassemblement National de pouvoir donner encore plus d'envergure à des élus à l'Assemblée nationale, par exemple. Je pense à des Laure Lavalette, à des Edwige Diaz, qui sont des personnalités médiatiques nationales aujourd'hui. Du côté de la base, on a effectivement plus de femmes, c'est vrai, on en a de plus en plus. C'est de plus en plus facile pour une femme de pouvoir militer au sein du Rassemblement National. Je rappelle quand même qu'il y a une majorité de femmes qui ont décidé de voter pour Marine Le Pen en 2022 par rapport à la proportion d'hommes. Donc le vote RN a toujours eu un penchant féminin quand même, en tout cas depuis les dernières années. Il y a de plus en plus de militantes, de plus en plus de candidates. Nous aurons la parité, hein, je le dis, nous serons peut-être l'un des rares partis qui, lors d'une prochaine élection législative, aura la parité nationale. Ça, c'est une certitude. La quasi-intégralité des investitures est bouclée à l'heure où je vous parle pour le Rassemblement National. Nous sommes totalement prêts pour une dissolution. Maintenant, côté rajeunissement, je suis extrêmement content que vous m'en parliez, parce que depuis très peu de temps, depuis quelques semaines, j'ai été nommé délégué national aux fédérations du RNJ, donc le Rassemblement National de la Jeunesse. Nous avons plusieurs dizaines de milliers de jeunes de moins de 30 ans qui ont leur carte au Rassemblement National. Il y en a beaucoup qui ont pris leur carte au moment de l'arrivée de Jordan Bardella à la présidence du parti. Il y en a beaucoup qui qui ont pris leur carte au moment de la condamnation de Marine Le Pen en première instance. Je rappelle quand même, il y a un appel qui a été pourvu. Il y a énormément de jeunes qui aujourd'hui décident de s'investir au RN. On leur donne beaucoup leur chance aussi. Il faut rappeler que Jordan Bardella, lors de sa première campagne européenne, il a 23 ans. Il faut se rappeler que le RN a également permis aux plus jeunes sénateurs de France d'être dans nos rangs. C'était David Rachline, il y a quelques années maintenant. Nous donnons la part belle aux jeunes, puisque généralement ce sont ceux qui montrent le plus de courage, et je dirais même qu'aujourd'hui que la plupart de nos élus de très grands talents sont des personnes de moins de 40 ans, et j'en suis très fier.
Est-ce que parmi ces jeunes, justement, est-ce qu'il y en aura dans les Côtes d'Armor? C'est une information qu'ont dévoilé nos confrères de West France. Six villes des Côtes d'Armor pourraient représenter des listes avec des candidats du Rassemblement National aux élections municipales du 15 et du 22 mars. C'est ce qu'a en tout cas confirmé Thomas Goulert, secrétaire département du RN en Côtes d'Armor. Parmi elles, donc Saint-Brieuc, Guingamp, Lamballe, Dinan, Loudéac et Lannion. Je rappelle donc que vous êtes secrétaire délégué national aux fédérations du RN Jeunesse et délégué régional en Bretagne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ce matin? Est-ce qu'il y aura 6 listes et si oui, sont-elles déjà prêtes?
Alors, il y a au moins une liste qui est bouclée, ça j'en suis certain. D'ailleurs, il y aura une conférence de presse qui sera donnée dans quelques jours, je vais vérifier, oui, dans une dizaine de jours, à Lannion pour notre candidate tête de liste, ou candidat d'ailleurs, j'ai failli faire fuiter quelque chose.
Mais vous saurez très rapidement. Vous avez un indice,
hein, une date, peut-être.
Je vous inviterai à aller à cette conférence de presse, de toute façon, l'invitation vous sera envoyée. Ces listes, évidemment, verront le jour, tout comme en Bretagne, il y aura, je pense, à peu près 25 listes qui seront déposées en général. Il y en a aujourd'hui 18 qui ont été investies, peut-être un peu plus d'une dizaine qui ont été annoncées dans la presse. Donc oui, ces listes, évidemment, verront le jour, notamment sur Lannion. Sur Lamballe, nous avons énormément de pistes. Je pense que Saint-Brieuc aussi, ça me paraît évident qu'il y aura une liste au Rassemblement National parce que nous souhaitons investir toutes les préfectures. Je crois que Guingamp aussi, on a des pistes. Et Dinan, il me semble qu'on est proche du but.
Donc,
également.
Les listes sont quasiment complètes, quoi.
Pour une grosse partie, oui.
Donc d'ici à la mi-novembre, début novembre, on aura des noms?
Vous aurez un nom déjà le 31 octobre.
En tout cas, ce qu'on a compris, c'est qu'à Lannion, ce sera possiblement une candidate. Je vous vois un peu sourire, mais bon, je pense que les auditeurs auront compris à travers la caméra que ce sera une candidate.
Voilà, et bien on va devoir s'arrêter là. Je voulais juste, en quelques secondes, votre réaction à l'incarcération de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui aujourd'hui va rejoindre pour 5 ans, a priori, la prison de la santé.
Je considère que cette incarcération, alors évidemment je ne suis pas là pour commenter des décisions de justice sur le fond, maintenant sur la forme, demander à l'incarcération de Nicolas Sarkozy, je pense sincèrement que du côté des juges il y a une volonté, tout comme il y a eu une volonté en appliquant l'application provisoire concernant Marine Le Pen, je pense qu'il y a une volonté de vouloir vouloir se venger, je dirais, des dirigeants à droite. Je pense qu'il y a une volonté de nuire ou d'humilier peut-être un ancien président de la République en l'envoyant à la prison de la santé. Alors, est-ce qu'il y restera longtemps ou pas? Je ne sais pas, parce qu'on peut faire en fait une demande de libération à partir du moment où on rentre dans les locaux de la prison. Donc, il déposera certainement une demande de libération. Maintenant, je considère que là, on est face en fait à une dérive d'un gouvernement des juges qui, malheureusement, va faire beaucoup de mal à la démocratie, essaye de faire du mal à la démocratie, notamment en empêchant une candidate aux futures élections présidentielles de pouvoir se présenter. Évidemment, des recours ont été déposés et nous sommes certains que Marine Le Pen pourra se présenter, puisque je rappelle, l'appel est en cours et nous clamons évidemment une innocence évidente, puisque nous savons que nous sommes complètement innocents des faits qui nous sont reprochés. Maintenant, je pense que ce gouvernement des juges sera appelé un jour à devoir être étudié sérieusement.
À noter que le procès se tiendra donc notamment en janvier 2026 pour Marine Le Pen.
Voilà, il fallait le préciser. Franck Nicolas, délégué régional du Rassemblement National Bretagne, délégué national aux fédérations du RNJ, donc le Rassemblement National Jeunesse, était notre invité politique dans la matinale de Bretagne 5. Merci infiniment d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Belle journée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.